France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Vous vous sentez peut-être déprimé en ce moment, de mauvaise humeur, il ne s'agit pas vraiment d'un état dépressif, mais ce n'est pas non plus la grande forme quand vous vous levez en cet hiver interminable. La météo couverte ne vous incite pas à la joie, l'actualité internationale vous rend anxieux, l'instabilité politique vous met le moral à zéro, sans compter les facteurs personnels liés à votre environnement socio-professionnel. Bref, dans ce contexte, comment retrouver une certaine bonne humeur sans céder à la tyrannie du sourire permanent tout en restant lucide? C'est l'équation que tenteront de résoudre avec nous les psychiatres Pierre Philippe et Michel Lejoyeux et la neuroscientifique Armelle Rancillac. Nos invités attendent toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
On l'a appris ce matin, le taux de chômage est en hausse, plus 3,9% au quatrième trimestre 2024.
Notre-Dame de Bétarame, aujourd'hui soupçonnée d'avoir abrité pendant 40 ans des adultes ultra-violents et des pédophiles.
On estime qu'il y a environ 600 000 personnes qui boivent actuellement de l'eau du robinet contaminée au CVM.
Des crues inédites depuis 40 ans à Rennes. Les tempêtes Eowyn et Herminia ont provoqué des pluies diluviennes qui ont fait déborder les cours d'eau.
Le principal suspect dans l'enquête sur le meurtre de Louise est passé aux aveux et devrait être mis en examen. Il a reconnu avoir poignardé à mort la jeune fille de 11 ans.
La Russie est aujourd'hui une menace existentielle pour l'Europe.
Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot avec. Je ne veux pas faire de l'esprit, je ne veux pas faire le malin, mais ce pourrait être la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Ce pourrait être vraiment magnifique.
Mix d'une actualité très anxiogène, signé David Leprince. Bonjour professeur Michel Lejoyeux.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et addictologue à l'hôpital Bichat-Claude Bernard, vous enseignez à l'université Paris-Cité et vous publiez chez Robert Laffont « L'aventure de la bonne humeur ». Bonjour professeur Pierre-Philippe.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, chef du service de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux. Après Antifatigue, vous publiez Antidéprime chez Albin Michel. Et vos deux livres, professeur Philippe, professeur Lejoyeux, se complètent très bien. Ils ne sont pas concurrents. Bonjour à Armelle Rancillac.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en neurosciences à l'INSERM, spécialiste du sommeil. Et vous êtes membre du comité d'organisation de la Semaine du cerveau qui aura lieu quand ?
Oh, bientôt.
En mars prochain.
La deuxième semaine de mars, partout en France.
Alors, avant de commencer, une précision très importante. Quelle est la différence entre une déprime passagère, une dépression et la dépression saisonnière ? La déprime, d'abord, peut-être, professeur Philippe.
La déprime, c'est un phénomène physiologique, hein, un petit peu comme le sommeil ou l'appétit. En fait, on est réglé par des horloges et donc au cours de l'année, on sait qu'il y a des périodes où on a plutôt un moral élevé, d'autres plutôt un moral bas. Donc déjà, il faut rompre le diktat qui consiste à dire que 365 jours, on doit être au top. Ça, c'est pas vrai. On a droit à des fluctuations. Par contre, je pense que les notions d'intensité et les notions de durée sont importantes. C'est ce que reprend le DSM-5. Michel le sait bien.
C'est le manuel diagnostique.
Le manuel diagnostique, voilà. C'est-à-dire, si plus de 15 jours, vous avez plusieurs symptômes, comme un trouble du sommeil, une anxiété, une dépression qui s'associent, il faut être vigilant. Mais si le lundi matin, quand vous allez au boulot, vous avez un petit coup de mou, bon, il ne faut pas se jeter la pierre. C'est assez physiologique et on verra comment on peut y remédier.
La déprime, c'est donc un état d'abattement proche de la tristesse, mais dont l'intensité et la durée sont modérées. Et la dépression, professeur Michel Lejoyeux.
Alors, dans mon livre, je propose 4 E pour faire la différence entre la déprime, qui n'est pas si définie que ça, où il n'y a pas beaucoup de critères médicaux, et la dépression. Le premier, c'est la perte d'envie. Tant que vous avez envie d'autre chose, tant que vous rêvez de vacances, de soleil, c'est bon signe. Le deuxième, c'est la perte d'énergie, même quand vous n'avez pas fait d'effort. Vous savez, cette perte d'énergie qui vient dès le lundi matin, dès le matin, celle-là, elle est inquiétante. La troisième, c'est la perte d'estime de soi. Quand on se met à se dire, tout ça est de ma faute, tant qu'on en veut aux autres, vous nous avez passé les actualités, c'est formidable, on en veut au monde entier. Donc tout ça, finalement, c'est presque de la bonne humeur, vous voyez, de mon point de vue, tant qu'on a possibilité de projeter. Et le quatrième, c'est quand l'émotion, ça vient de motion, ça bouge, quand les émotions ne bougent plus, quand elles sont, comme le dit Pierre très justement, qu'elles vont durer et qu'elles vont durer de manière triste. Perte d'envie, perte d'énergie, perte d'estime de soi, émotion triste. Dans ce cas-là, on pose la question à un médecin.
Professeur Pierre-Philippe, la dépression saisonnière, c'est une notion introduite en 1984 par la recherche médicale. Et là, c'est un trouble qui survient quand la lumière diminue de façon significative au cours de l'hiver. Et c'est un trouble qui a tendance à disparaître au beau jour, c'est ça ?
Oui, alors la dépression saisonnière, c'est le sacré graal pour les neurobiologistes comme nous du modèle physiopathologique de la dépression. C'est très rare en fait en France, c'est très lié à la latitude, par exemple il y en a beaucoup plus au Canada qu'aux États-Unis, et effectivement c'est lié, ça se traite avec une exposition lumineuse accrue, c'est saisonnier, il y a des comportements associés, une prise de poids, il y a une augmentation de la durée du sommeil, c'est quand même très très rare, et je crois que nous on est plus confrontés dans ce qu'on peut appeler la dépression hivernale, qui est lié au repli sur soi, comme le dit Michel, à l'exposition lumineuse réduite, effectivement, quand même chez nous, et puis à la difficulté peut-être à avoir une activité physique parce qu'il ne fait pas beau.
Armelle Rancillac, pourquoi la grisaille, le manque de soleil, influence notre humeur, notre morale ? Selon Météo France, l'année 2024 a été très maussade, la moins ensoleillée depuis une trentaine d'années.
Voilà, donc on va avoir tendance à moins s'exposer dehors, à moins sortir. Or, on sait que l'exposition lumineuse va être très importante pour augmenter notre éveil. Et qui dit bon éveil, dit bon sommeil. Et si du coup, on n'est pas très bien éveillé en journée, plus maussade, eh ben ça va impacter notre sommeil, on va moins bien dormir. Or, le sommeil va remplir de nombreuses fonctions, dont la régulation du stress et de l'humeur. Et ça va constituer un peu un cercle vicieux qui va faire que, au fil des jours et des semaines et des mois, parce que là, ça fait quand même très longtemps qu'il fait bien gris, on va avoir plus de mal à surmonter ses émotions et à sortir de ce morose.
Et Armelle Rancillac, il faut rappeler que la lumière du jour passe par nos nerfs optiques et va donc stimuler une zone cérébrale importante pour notre sommeil et notre morale, c'est l'hypothalamus.
Exactement, voilà, on a des petits capteurs au niveau de la rétine qui vont stimuler les cellules à mélanopsine et directement, ça va aller jusqu'au centre de notre cerveau, très profondément au niveau du noyau suprachiasmatique. Bon, c'est un peu un gros mot, mais bon. C'est une horloge interne à notre cerveau qui va donner tout le rythme. Et notre organisme, pour bien fonctionner, il a besoin d'avoir des rythmes assez forts pour bien accompagner toutes les fonctions physiologiques qu'il doit assurer, la prise alimentaire et le sommeil. Et en plus, il y a des inhibitions directes qui vont aller au niveau du centre du sommeil, qui est ma petite structure de prédilection que j'étudie en particulier, le VLPO. Et du coup, cet influx lumineux va pouvoir renforcer l'inhibition du sommeil pour favoriser l'éveil et avoir profité au mieux de la journée.
Racontez-nous ce qu'est le VLPO. Beaucoup d'auditeurs découvrent cette structure ce matin.
Donc, c'est une petite structure de l'hypothalamus, comme vous l'avez bien introduit, merci, qui est très très petite et vraiment située sur le plancher du cerveau, donc très difficile d'accès, difficilement étudiable par des techniques d'imagerie classiques. Et donc moi, j'ai tendance à couper le cerveau en tranches pour bien voir ce qui se passe au niveau de cette petite région. Et j'étudie au niveau cellulaire comment les neurones vont communiquer avec les cellules qui sont à côté. Ce sont notamment des astrocytes en forme d'astres, très jolis, pour mieux comprendre ce qui se passe et les mécanismes qui régulent le sommeil dans cette petite région très importante pour la régulation du sommeil lent, pour identifier des nouvelles cibles thérapeutiques et espérer un jour développer des nouveaux traitements plus efficaces et plus ciblés sur le long terme.
Professeur Philippe, par quel mécanisme le manque de sommeil impacte directement notre humeur ?
Alors, ce qu'on a compris dans les dernières années, c'est que les mécanismes qui prévalaient pour les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire en gros schématiquement l'inflammation de bas grade et le stress oxydatif, valent également massivement pour les troubles de l'humeur. C'est-à-dire que l'inflammation à bas bruit du cerveau dérègle, en fait, comme le disait très bien Armelle, les régulations entre les neurotransmetteurs, et c'est ça qui peut créer un trouble qui aboutit à la dépression. Donc l'activité physique, le sommeil, bien sûr, et dans une moindre part la nutrition, on y reviendra, peut abaisser cette inflammation de bas grade et donc stabiliser votre humeur, un peu comme un effet amortisseur biologique qui vient en complément de toutes les stratégies comportementales dont parle Michel.
Armelle Rancillac.
Oui, donc il faut vraiment, même s'il fait gris, même s'il pleut, essayer quand même de sortir dehors, pas forcément 2-3 heures, mais pour s'exposer à la lumière du jour.
Et au minimum, un quart d'heure, 20 minutes.
Ouais, on peut pousser à la demi-heure, mais
à la demi-heure,
il faut pas se donner un objectif qu'on n'arrivera pas à atteindre. Il faut essayer de sortir, et puis on essaye de prolonger si possible, pour quand même que ce soit atteignable.
Professeur Michel Lejoyeux, à partir de quel moment faut-il consulter un professionnel ? C'est quoi, quand la déprime s'installe plus de 3 semaines consécutives ?
Oui, et vraiment, quand on n'arrive plus à prendre du plaisir, j'allais dire, quand on n'arrive plus à avoir d'envie, parce qu'il faut se rappeler que ces états d'inhibition, de perte d'énergie, de perte d'estime de soi, peuvent aussi avoir d'autres causes médicales. Il ne faut pas immédiatement psychologiser, ce qui peut être un début d'hypothyroïdie, un début de diabète, un syndrome inflammatoire. Oui, il ne faudrait pas qu'une passion pour la psychologie fasse faire des erreurs médicales et fasse dire, je vais faire des petits exercices de bonne humeur, alors que je suis en train de commencer un diabète ou une hypothyroïdie.
Tiens, un mot sur votre personnage, parce que c'est un roman, en fait, l'aventure de la bonne humeur, un essai déguisé en roman, très intéressant. Votre personnage, c'est Maria Gary, hein, c'est ça, une
Absolument.
Pianiste à fleur de peau qui refuse de se laisser guider par sa tristesse et elle recherche une sérénité durable, même si on sait que cette sérénité durable est assez difficile à atteindre. Hein.
Oui, mais elle va faire des rencontres. Je me suis inspiré de quelqu'un qui avait fait des romans policiers, vous savez, où il y avait du développement personnel. Vous trouvez
je ne vois pas de qui vous parlez.
Vous ne voyez pas de qui je peux parler. Hein. Donc je me suis dit que le roman, finalement, montrait deux choses. Montrait d'abord que c'est plus amusant à écrire, honnêtement, qu'un essai. J'en pouvais plus, en période de post-Covid, d'avoir des essais à l'impératif. En plus, ça permet de se balader dans Paris et ça permet de faire des rencontres. Et surtout, ça montre que la bonne humeur, c'est une affaire très personnelle. Méfiez-vous des gourous qui ont la même bonne humeur pour tout le monde, cette approche un peu orwellienne du monde. Je sais ce qu'il vous faut pour être heureux. Moi, je ne sais pas ce qu'il vous faut pour être heureux, mais je peux vous suggérer quelques lectures et quelques rencontres qui peuvent mettre un peu d'oxygène dans votre cerveau.
Bonjour, docteur Adrien Chaboch.
Bonjour, Adrien.
Quel est le menu de votre chronique Quoi de neuf, docteur, dans une vingtaine de minutes?
Eh bien, comme l'a très bien dit mon confrère, le professeur Lejoyeux, on va aussi parler des petits tracas du corps de l'hiver, un peu spécifique à l'hiver, mais aussi c'est bien fait pour le corps. Tout n'est pas si négatif.
À tout à l'heure.
Grand bien vous fasse.
Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer bonsoir.
Sur France Inter.
Comment retrouver la bonne humeur en cette période anxiogène alors que l'hiver s'éternise et que la situation sociopolitique, géopolitique plombe notre morale? C'est notre thème ce matin. Alors Armelle Rancillac, je rappelle que vous êtes chercheuse en neurosciences. On l'a dit il y a quelques minutes, le sommeil est un grand régulateur du stress et des émotions. Le sommeil, ça reste la clé de voûte de notre bonne humeur.
Exactement, parce que ça va rééquilibrer tout ce qui a été un petit peu déséquilibré et mis en péril pendant la journée, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc la première partie du sommeil, on va faire un peu plus de sommeil profond pour la récupération physique. Et en deuxième partie de nuit, on va faire un peu plus de sommeil paradoxal, qui lui est un peu plus important pour la régulation émotionnelle. Parce qu'on sait aujourd'hui que le sommeil assure énormément de fonctions et qu'il faut des bonnes nuits et prendre soin de son sommeil pour être au top de ses capacités et profiter au mieux de la journée dans la bonne humeur.
Professeur Pierre-Philippe, je rappelle que vous êtes chef du service universitaire de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux. Sur cet impact du mauvais sommeil sur notre humeur tout au long de la journée.
Alors, les connaissances, elles ont massivement évolué dans les dernières années. Nous, on a publié un papier en 2023 dans Sleep, justement. Où on
nous, montre... c'est votre équipe, vous ne parlez pas de vous à la troisième personne du singulier.
Comme vous avez cité mon service voilà, et notre unité CNRS. Donc, en fait, ce qu'on a montré, c'est que la dimension régularité du sommeil est extrêmement importante. Je fais une petite publicité. On a mis un QR code dans le livre pour télécharger ou pour aller sur les réseaux sociaux à @pr.philippe où on peut télécharger des outils gratuits. Sur Insta et TikTok. Voilà, c'est important parce que tout le monde ne va pas acheter un livre. Et justement, pour mesurer sa régularité. Et ce qu'on a montré, et une équipe nord-américaine l'a confirmé, c'est qu'en augmentant la régularité, on arrive à prévenir la dépression, voire la corriger dans une certaine mesure, ce qui est très nouveau, parce qu'auparavant, on pensait que c'était l'inverse, on pensait qu'on perdait le sommeil à cause de la dépression. Donc, des interventions sur le sommeil peuvent démontrer une action vraiment thérapeutique sur les troubles de l'humeur.
Mais que faire? J'ai croisé ce matin un collègue de France Inter qui m'a dit qu'en ce moment, il avait du mal à dormir la nuit en raison de l'actualité internationale très anxiogène. Ça peut être aussi pour d'autres personnes, les soucis personnels, etc. Comment faire pour retrouver un sommeil serein quand on a ce stress, cette anxiété qui rôde autour de vous? Michel Lejoyeux, professeur Michel Lejoyeux.
Peut-être lire Alain, par exemple, qui disait « il faut regarder au loin ». Vous savez, quand on trouve l'actualité internationale angoissante, on se demande ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 20 ans. On a une tendance à considérer toujours comme exceptionnellement angoissant ce qui n'est au fond qu'une répétition. Je ne suis pas sûr que la génération de nos parents ait vécu une actualité particulièrement souriante. L'autre chose, cette phrase d'Alain, parce que vraiment les philosophes peuvent nous accompagner là-dessus. Alain dit Le pessimisme est de nature. Pardon de vous le dire, mais vos actualités sont toujours pessimistes. Si vous ne nous racontez que des actualités optimistes, ça ne marche pas. L'optimisme est de combat. Donc entendons peut-être qu'un moment de contrainte extérieure est plutôt une incitation à mener des petits combats d'optimisme. Mais vraiment, n'ayons pas cette idée que c'est la première fois que ça arrive, qu'on est dans une situation totalement exceptionnelle. On a toujours eu ce sentiment-là.
Oui, mais là, il y a ce sentiment de vivre une époque un peu dystopique qui renforce peut-être ce sentiment d'anxiété. Et évidemment, vous avez raison, il y a 10, 15, 20, 50 ans, les actualités étaient tout aussi anxiogènes. Mais ce sentiment d'une actualité dystopique qui ressemble à un roman de science-fiction accroît peut-être chez beaucoup cette anxiété qui peut empêcher de dormir.
Vous savez, les données de fréquence des maladies montrent que l'actualité ne joue pas sur la fréquence des maladies mentales. Les pays exposés à des guerres, à des vraies guerres sur leur terrain, pas uniquement à un sentiment de guerre, vous voyez, ce qui est quand même complètement différent, ne voient pas augmenter la prévalence de leurs troubles mentaux. Donc il faudrait faire attention à ce que ce sentiment d'être un peu en guerre par procuration ne nous mette pas dans un état pire. Et rappelons-nous quand même que la seule solution, c'est que dans les vrais états de crack, et il y en a, hein, on les a définis, là, il faut demander un avis médical. Donc, plutôt qu'une psychologie collective, voyez, est-ce que les Français sont déprimés? Moi, je ne soigne pas les Français, je soigne des individus. Soyons capables de repérer quand quelqu'un ne va pas bien.
Professeur Pierre-Philippe.
Alors, un peu dans la même ligne aussi, il y a une publication qui est sortie cette semaine dans la National Sleep Foundation, où ils ont regardé le seuil de préoccupation des Américains. Et donc, il y a 81% des Américains qui sont préoccupés par leur incapacité à atteindre l'objectif de sommeil qu'ils se sont fixés. Donc, les montres connectées, les applications de suivi, quand elles sont utilisées pour se fixer un objectif inatteignable, c'est très mauvais. Donc, un message peut-être de réassurance qu'on peut passer aussi, c'est utiliser des applications comme Canopé qu'on a développé pour faire un point un peu étalé dans le temps,
global.
Pour pas s'obséder à la pire des nuits de la semaine, c'est très bien. Aller chercher des informations documentées sur les réseaux PA.Philippe et autres, documentées, c'est très bien. Par contre, se fixer une cible inatteignable, c'est anxiogène. Et là, il faut mettre de la distance. Les stratégies de cohérence cardiaque, de relaxation peuvent très bien marcher avant l'endormissement.
Armelle Rancillac, chercheuse en neurosciences.
Exactement. Il faut voir vraiment le sommeil comme une déconnexion. Et pour diminuer son stress, pour mieux s'endormir, il faut renforcer une routine d'endormissement. Et plus se recentrer sur soi, oublier un petit peu les préoccupations, les guerres, nos tracas du quotidien, la to-do list qu'on doit faire pour le lendemain, la charge mentale. Tout ça, il faut se dire, bon, je mets de côté, maintenant je vais profiter de mon sommeil, de mon bien-être. Je vais peut-être même faire des rêves extraordinaires, je vais pouvoir partir en vacances gratuitement, au soleil, dans un endroit qui soit vraiment parfait pour moi. Il y a des techniques, voilà, de se faire plaisir. Et c'est accessible à tous et gratuit.
Michel Lejoyeux.
Et surtout, pas de toxique et pas de traitement inutile. Méfions-nous du petit verre d'alcool qui serait censé, et ça c'est une vraie tendance, et puis méfions-nous aussi des antidépresseurs qui, hors dépression caractérisée, n'aident pas à supporter l'actualité.
Et c'est un psychiatre qui le dit. Alors l'idée ce matin, c'est de lutter contre la mauvaise humeur, mais sans céder au diktat, à la tyrannie de la bonne humeur et du sourire permanent. D'ailleurs, Michel Lejoyeux, les gens qui proclament en permanence leur bonheur, leur bonne humeur, ont tendance à vous inquiéter. Vous les appelez d'ailleurs les ravis de la vie dans votre roman.
Oui, alors, ils me font peur.
Expliquez-nous pourquoi.
D'abord, parce que c'est pas réaliste. Qui d'entre nous a été tout le temps de bonne humeur? Ça n'existe pas. L'émotion, par définition, est fluctuante. Vous savez, cette merveilleuse phrase d'Albert Camus dans L'Étranger, « Ce matin, ma mère est morte, je ne ressens rien. » Que dans une situation de drame, on ne ressente rien, m'inquiète. Que dans une situation de drame, notre machine à produire des émotions soit capable de se mobiliser. Ça, pour le coup, c'est rassurant. Et puis, en psychiatrie, les seules personnes qui soient totalement heureuses, ça s'appelle les axémaniaques, et ils finissent hospitalisés par contrainte.
Professeur Pierre-Philippe, vous le martelez également dans votre livre Antidéprime, on ne peut pas être au top de sa forme psychologique 365 jours par an, et il est normal, naturel, de vivre des variations de l'humeur.
Je pense que ce qui est important, c'est d'apprendre aux gens, comme l'a dit Michel, les normes acceptables. C'est-à-dire, par exemple, se mettre un petit peu en retrait pendant un moment, refuser une invitation à dîner un soir parce qu'on est un peu fatigué, c'est tout à fait acceptable. Par contre, je pense, garder des routines positives, même 5 minutes de marche par jour en s'exposant à la lumière, c'est une tâche de fond qui va nous donner l'énergie biologique pour engager tous ces comportements vertueux dont on parle. Et je l'écris dans mon livre, le bonheur c'est contagieux. Donc d'abord, avoir des contacts sociaux, c'est peut-être la meilleure stratégie antidépressive. Donc c'est ça qu'il faut essayer de privilégier avec le niveau d'énergie associé.
Michel Lejoyeux, si un matin on se réveille, le moral dans les chaussettes sans raison, il ne faut pas se forcer à aller mieux à tout prix. Il faut peut-être prendre un peu de recul et analyser le pourquoi de cette déprime et peut-être en tirer des bienfaits de cette déprime passagère.
Ouais, moi j'analyserai pas, vous voyez, parce que quand vous toussez, par exemple, vous analysez pas les raisons de votre toux. Il faut, vous
savez, ça dépend.
C'est Alain qui dit, il vaut mieux le menton que le front. Hein, c'est-à-dire, il vaut mieux essayer de relever son menton que de se tenir le front. Et peut-être que justement, mobiliser nos antidépresseurs naturels, Pierre le dit très bien, moi j'en donne des exemples dans le livre, d'activité physique, être capable aussi de, vous voyez, on se réveille de mauvaise humeur, on se fait un thé, on va, j'appelle ça zoomer, moi j'apprends des expériences de zoom, on se fixe sur une boisson, sur une musique, on s'isole, pendant 5 minutes on va aussi mettre son portable à distance, on va un peu prendre rendez-vous avec soi, mais pas tellement dans une causalité. Vous voyez, aujourd'hui, on ne définit plus les troubles de l'humeur en fonction d'une causalité, mais je suis de mauvaise humeur, c'est peut-être une petite indication à me faire plaisir, à me prendre mon carré de chocolat noir, mon thé, et de me dire que j'ai à ma portée ces petites actions. Et n'oublions pas quand même, si ça dure, si je suis comme ça depuis 15 jours, j'ai un médecin généraliste et je vais lui en parler.
Adrien Chaboch.
Oui, je crois que ce qu'on a dit, c'est aussi c'est de prendre du recul. On n'est pas tellement fait pour être autant connecté à tout, comme on l'a très bien rappelé. L'histoire nous montre qu'il y a toujours eu des guerres partout, impitoyables, horribles. Prendre du recul, ça fait du bien. Moi, je rebondirais sur un autre philosophe, un esprit des Lumières, Voltaire. Il faut cultiver son jardin. Son jardin, c'est un espace restreint, petit. C'est son espace à soi. Alors quand j'ai les patients,
son espace vital.
Voilà. Mais c'est un petit espace. Quand j'ai les patients qui viennent me voir et qui me disent, voilà, ça va pas, etc. Je dis, mais en fait, n'analysez pas. Juste, quelle est votre météo du jour? Est-ce que c'est nuageux? Bah, si c'est nuageux, habillez-vous. Si c'est ensoleillé, déshabillez-vous. Mais de forcer, de dire, ah non, il pleut, mais moi je vais être en débardeur. Mais non, mais ça sert à rien. Vous allez vous faire du mal. Juste ce temps le matin de se dire, c'est quoi ma météo du jour?
Et c'est quoi exactement la bonne humeur, Michel Lejoyeux ? Plusieurs formes de bonne humeur dans votre livre. La bonne humeur sereine, la bonne humeur énergique et la bonne humeur résiliente. D'ailleurs, la bonne humeur résiliente, c'est celle que vous préférez. C'est l'arc-en-ciel après l'orage. Racontez-nous ces trois bonnes humeurs, Michel Lejoyeux.
Alors, résiliente, évidemment, c'est quand on a dépassé les difficultés. La bonne humeur sereine, la bonne humeur aussi d'excitation. Vous savez, les médecins définissent beaucoup moins bien la santé que la maladie. Un de nos fondateurs de la psychiatrie, qui était Jean Delay, disait quelque chose d'indépassable. L'humeur est une notion facile à comprendre. Vous savez très bien le matin si vous êtes de bonne ou de mauvaise humeur, mais difficile à définir. Donc, vous savez comment vous êtes, mais vous avez du mal à le définir. Moi, il y a une définition qui me plaît beaucoup, c'est celle du philosophe René Le Riche, qui disait « La santé, c'est la vie dans le silence des organes ». C'est-à-dire, un dos en bonne santé, c'est quoi ? C'est un dos dont vous n'entendez pas parler. Peut-être qu'une bonne humeur, c'est simplement ne pas avoir d'angoisse, ne pas avoir de coups de déprime. C'est plus, moi, j'en donnerais plutôt une définition par l'absence de maladie que la recherche d'un état d'euphorie, d'exaltation permanente. Vous voyez ? Donc, ne recherchons pas ça, recherchons plutôt des petites expériences agréables.
Pouvez-vous nous parler, Michel Lejoyeux, de l'insight ? L'insight équilibré, c'est quoi ? L'idée, c'est de passer d'un état d'esprit triste à un mode d'observation plus neutre qui laisse davantage de place aux émotions désagréables, à ses qualités, à sa force de caractère. C'est ça l'insight équilibré que vous expliquez dans votre livre ?
Oui, c'est-à-dire qu'on a une machine à voir le pire. Le jour où vous avez perdu vos valises dans un aéroport, vous vous en souvenez parfaitement. Le jour où on vous les a rendues, normalement, vous ne vous en souvenez pas. Donc notre esprit est fait pour se souvenir du pire. On a demandé à des Allemands, définissez vos voisins, définissez ceux que vous aimez et ceux que vous n'aimez pas. Ceux qui n'aiment pas, ils sont intarissables. Ceux qu'ils aiment, ils sont juste sympas. Donc, on a une capacité, quand on regarde en nous, à grossir le négatif et à considérer comme normal le positif. Donc il faut un petit effort un peu volontariste là-dessus.
Et c'est pour cela, pour lutter contre sa mauvaise humeur, sa déprime passagère, qu'il est essentiel de repérer ses biais cognitifs, ses erreurs de raisonnement. Quand on se fait des reproches, par exemple, on ne prend en général en compte qu'un aspect de la situation, d'où la nécessité de prendre du recul et de prendre conscience de ses erreurs de raisonnement, de ses biais cognitifs.
Absolument. On va bien en raisonnant pas en tout ou rien. Il faut des nuances de gris, si j'ose dire. Il faut être capable de douter. Et c'est pour ça que moi, j'utilise aussi beaucoup dans le livre Platon et Socrate. Quand un philosophe vous apprend à douter, il vous fait du bien.
Armelle Rancillac, chercheuse en neurosciences, sur les biais cognitifs qui parfois nous font voir la réalité de façon biaisée, justement.
Effectivement, je pense que dans notre attitude, on peut essayer de se mettre en position, voilà, plus je vais tout faire pour essayer d'aller mieux, d'aller bien, et donc je vais aller privilégier mes interactions sociales qui vont renforcer mes taux de dopamine, je vais bien m'exposer à la lumière, je vais essayer aussi de me donner les chances d'être le mieux possible dans mon corps, dans mon environnement, en voilà, tenant compte des problématiques qu'il y a forcément toujours autour de moi.
Rappelez le rôle de la dopamine peut-être, cette hormone liée...
De la récompense et du plaisir, voilà. Du bien-être qu'on va avoir, notamment si on mange quelque chose qui nous fait plaisir, mais aussi dans les interactions sociales qui sont vraiment très importantes.
Professeur Lejoyeux.
Il y a deux verbes que j'apprends à mes patients à enlever de leur vocabulaire. Le premier, c'est gérer. On ne gère pas ses émotions. Je ne sais pas comment on les gère. Le deuxième, c'est positiver. Vous voyez, vous arrivez une catastrophe, il faut que vous trouviez à quel point elle est géniale. Ça, en plus du stress, vous avez la contrainte de devoir positiver le stress. Donc, le troisième verbe qu'on accepte, c'est accepter. Plus que gérer ou positiver, on accepte, on tolère.
Et vous appelez d'ailleurs cette méthode, entre guillemets, l'ART, A pour acceptation, R pour reconnaissance de ses propres biais et erreurs de raisonnement, et T pour transformation, pour venir à bout d'une croyance toxique, il faut lui substituer une croyance meilleure source d'énergie et d'optimisme. Je vous cite dans votre livre.
Je suis impressionné, monsieur Réveil, comme vous êtes bon en psy. Est-ce que vous voulez maintenant venir travailler à l'hôpital Bichat comme psychiatre ou psychothérapeute? Nous embauchons, vous savez.
Professeur Pierre-Philippe, pour que la bonne humeur revienne dans sa vie, vous le rappelez dans votre livre, il existe trois déterminants fondamentaux de notre morale. Notre forme biologique, l'environnement et la manière de le percevoir et nos comportements. Ça, c'est trois bases absolument fondamentales.
Oui, en fait, c'est le principe en fait, des thérapies, que ce soit de l'acceptance commitment thérapie ou des thérapies cognitives ou comportementales, c'est de dire on va introduire un comportement qui va modifier notre biologie, qui ensuite va impacter notre cognition. L'erreur que font les gens, c'est de ne pas prendre en compte le niveau d'énergie de base qu'ils ont, et qui est directement lié au sommeil, à l'activité physique et à la nutrition, et qui ne leur permet pas d'engager. Donc il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, les thérapies, ça ne marche pas, mais ce n'est pas la thérapie qui ne marche pas, c'est la capacité à engager dans le changement. Et donc le propos d'antidéprime, c'est justement d'expliquer comment est-ce que des actions très simples mais combinées, par exemple se lever le matin, marcher 10 minutes, par exemple descendre deux arrêts de tram avant son boulot, peut avoir un effet durable, très consolidé dans le temps. Et donc c'est ces éléments-là, je pense qu'il faut aussi promouvoir en termes de prévention des troubles de l'humeur. Et même chez les gens déprimés, on sait que la nutrition ne marche pas en thérapeutique. En traitement, le sommeil et l'activité physique sont très opérationnels, donc il faut les promouvoir comme une prescription naturelle et non pharmacologique. Je rejoins assez Michel sur le fait qu'il faut peut-être essayer de limiter la prescription des antidépresseurs et passer plutôt par des solutions biologiques naturelles.
Et concernant l'environnement et la manière dont on le perçoit, qu'est-ce que vous préconisez de façon globale, professeur Pierre-Philippe ?
Alors, le problème de la dépression, vous l'avez tous dit, mais on peut le dire de façon différente, c'est l'émoussement affectif. C'est-à-dire que quand vous êtes déprimé, c'est un petit peu comme s'il y avait un voile gris qui tombait devant vos yeux et qui va modifier la perception de la réalité. De Clérambeau disait « l'œil ne voit pas l'œil ». Donc, avoir autour de soi des gens proches, c'est ce que je dis dans Antidéprime, avoir des amis de longue date, c'est des gens qui vous connaissent. Et rien qu'en écoutant comment vous dites bonjour, ils vont savoir quel est votre niveau d'humeur. Donc, avoir un retour humain continue dans le temps et de confiance, c'est un élément extrêmement important. Alors, si on est isolé, ça peut être un coach sportif, hein. Ça peut même être sa boulangère si tous les matins on va acheter une baguette de pain, mais c'est extrêmement important aussi de se baser sur l'environnement pour avoir un retour et pour voir comment est-ce qu'on évolue.
Pour agir sur sa déprime, sa mauvaise humeur, quand le réservoir est vide, vous insistez sur l'importance de la planification pour mieux gérer le changement, mais aussi d'adopter un pas de côté, et puis toujours, on l'a dit tout à l'heure, toujours se rappeler que le moral fluctue. Sur la planification pour mieux gérer le changement.
Oui, alors, ce qu'on sait, c'est que les horloges biologiques, elles ont une certaine inertie. Donc, vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, bouleverser votre biologie. Ça veut dire qu'on sait que, par exemple, pour poser un diagnostic de dépression, il faut au moins 15 jours. Si on veut une efficacité d'un médicament, il faut 3 semaines à 6 mois. Et donc, il faut se donner du temps aussi, de façon à ne pas dire « Ah ben, pendant une semaine, j'ai mangé différemment et je suis sorti, j'ai marché, et ça ne fait rien. » Donc, il faut aussi essayer de s'inscrire dans le temps. Et l'intérêt, justement, des agendas ou des outils de mesure dans le temps, c'est de voir comment on était il y a 3 semaines ou un mois, puisque comme l'a dit Michel, on a tendance à effacer assez rapidement la mémoire, et se positionner dans le temps. Donc, télécharger ces outils et utiliser-les, non pas pour vous stigmatiser en disant « Oh là là, ça va mal », mais au contraire pour dire « Vous voyez, avec des toutes petites actions, ben en fait, j'étais à tel niveau et maintenant je me retrouve là et c'est pas si mal. »
Et ce qui est intéressant dans votre livre, Pierre-Philippe, c'est qu'il y a un carnet de suivi anti-déprime. Vous prenez par la main le lecteur.
Alors ça, c'est inspiré à la fois des stratégies d'acceptance commune thérapie.
Ça veut dire quoi?
Alors, les ACT, c'est ce qu'a décrit Michel. Ouais. C'est une forme de psychothérapie dans laquelle on dit « rabaissez le niveau de vos attentes, mettez-vous dans un schéma où vous allez dire « ma vie telle qu'elle est en ce moment, elle n'est pas si horrible que ça ». Et par contre, je vais engager des ajustements comportementaux et psychologiques qui font que je vais me dire ben, « finalement, c'est ma vie et j'y suis bien dedans ». Voilà. Après, les TCC, elles sont
thérapie basées... comportementale et cognitive.
Ouais, excusez-moi, ouais. Elles sont basées sur un couplage entre je change mon comportement pour améliorer, en gros, ma psyché, ma cognition. Donc ça, c'est aussi un élément très fort. Et dans le livre, on a pas mal travaillé en reprenant différentes stratégies pour combiner l'action biologique. Hein. C'est-à-dire que là, le comportement, ça cible vraiment l'inflammation de bas grade et le stress oxydatif pour dire après... Tout d'un coup, vous allez sentir que la machine se déclenche. Vous savez, des fois, il pleut, vous sortez, vous avez une pêche terrible. C'est incompréhensible. Mais en fait, c'est l'explication pure et simple de l'importance de la biologie dans votre perception de l'environnement.
Professeur Lejoyeux.
Oui, une toute petite expérience. Moi, je trouve très bien tout ce que dit Pierre. Par exemple, vous sortez, vous n'avez pas le moral, vous allez chez votre boulanger. Bien, vous allez utiliser un mot magique avec votre boulanger, vous allez le remercier. Vous voyez, cette capacité à se dire, j'ai dans mon entourage des personnes à qui je peux marquer de la gratitude. Donc, idéalement, des personnes importantes. Mais cette capacité, au fond, à se dire... Quand tout me paraît difficile, j'ai quand même des gens que je peux remercier, va avoir un effet positif. Le remerciement, la gratitude, l'altruisme sont extraordinairement égoïstes. C'est une manière de se faire du bien.
Il est 10h41, l'heure de retrouver la chronique « Quoi neuf docteur » d'Adrien Chaboch.
Voilà, ça me le fait, là.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi.
Ali Rebéi.
J'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Quoi de neuf, docteur?
Sur France Inter.
Quoi de neuf, docteur Adrien Chaboch?
Mais cher Ali, ça y est, c'est la fin. Mais non, un peu d'optimisme, Ali. La fin de l'hiver et l'arrivée du printemps. Bientôt, bientôt. Parce que qui ne s'est pas plaint ces derniers temps, ou autour de vous, du manque de lumière? Mais avec raison, Ali. Avec raison, car si l'année dernière, nous avons effectivement battu les records de pluie, cet hiver, c'est celui du manque d'ensoleillement. Environ 10% de moins qu'habituellement. C'est vrai, c'est le pire depuis 1993.
Et donc, ça a des effets sur nous, docteur Chaboch.
Eh bien oui, Ali, le premier effet est ce qu'on appelle poétiquement le syndrome de l'oreiller collé. Toutes ces fois, vous êtes arrivé, enfin pas vous, Ali, au travail avec la trace de l'oreiller sur le visage parce que vous n'arriviez pas à vous lever. Bah, c'est pas de la paresse. La durée du jour atteint à peine 8 heures en ce moment, alors que nos journées en font 16. Et cet été, il y aura 16 heures de jour. Alors... fatigue, lassitude, c'est le moment paradoxalement où dans notre société on nous demande d'être le plus performant et productif au travail. Pourtant, cet état va pousser certains de nous jusqu'à ce trouble dépressif saisonnier et c'est pas dans la tête. Alors dites-moi si vous vous reconnaissez, il y a Anne-Marie, que je salue, qui se reconnaîtrait, qui est arrivée en consultation la semaine dernière en me disant « Docteur, ça y est ». Je pars en morceaux. Après 3 semaines de tout, j'ai eu l'œil tout rouge et gonflé, et voilà que mes genoux me font mal maintenant. J'ai pris 3 kilos, c'est sûr, c'est la fin, je meurs. Alors, c'est vrai que les épidémies de virus ont été très agressives cette année. La grippe a fait 3% de décès en plus, la plus violente depuis 2017, c'est une réalité.
Bon, quant au poids, j'ai dû rassurer Anne-Marie, car l'hiver, notre organisme veut faire des réserves et dirige notre attention vers des aliments riches. Mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort car, par exemple, le chocolat noir est riche en tryptophane, une molécule à la base de la production de la sérotonine et de la dopamine dont on a dit justement qu'elle nous manquait. Moi, ça me déculpabilise de manger du chocolat noir. Alors, pas tellement envie de faire du sport dehors. Pourtant, marcher au frais renforce notre système immunitaire, brûle plus de graisse brune pour produire de la chaleur, contrairement à la graisse blanche qu'on stocke. Oui, mais vous allez me dire, oui, mais quand je rentre à la maison, toute ma peau, après le froid, me pique et gratte. Oui, c'est vrai aussi, l'air froid et sec de cette année, associé au chauffage intérieur, transforme la peau en parchemin inflammatoire, assèche les yeux et favorise les conjonctivites, ou les chalazions, vous savez, cette petite boule douloureuse sur le bord de la paupière que j'ai eue énormément cette année dans ma patientèle. Oui, c'est vrai, enfermé sous les couches, la peau étouffe entre le froid et la douce moiteur des transports, et ça sent pas toujours le printemps sous les bras. Les savons industriels riches en tensioactifs décapent la peau et enlèvent notre film hydrolipidique protecteur, favorisant sécheresse et eczéma. Alors pour ne pas ressembler à un papyrus, je vous préconise les savons sur gras, beurre de karité, savon d'Alep, les huiles lavantes relipidantes, parfaits pour vos peaux qui n'attendent qu'une chose, être caressées. Car si sous la couette, les pieds et les mains froides ne sont pas des plus sensuels. Savez-vous, Ali, que deux corps humains, collés l'un contre l'autre, produisent l'équivalent de 200 watts. Autant qu'un petit radiateur suffisant à réchauffer le lit de 4 degrés. Et puis, faut le dire, voilà, il y a des gens qui aiment aussi l'hiver. Alors surtout, ce temps où toute la nature se met en réflexion, n'est-il pas le meilleur moment pour se rêver, s'imaginer à ce que l'on désire avec l'optimisme de la lumière qui vient toujours éclairer les jours les plus sombres.
J'aime bien cette information sur ces 200 watts de deux corps collés. C'est pas mal, hein, autant qu'un petit radiateur. Ben, vous nous avez appris quelque chose. Armelle Rancillac, neuroscientifique.
Oui, je voulais préciser quand même que le chocolat contient aussi beaucoup de caféine. Alors attention, si vous en prenez beaucoup avant d'aller dormir, ça va être contre-productif. Alors que la graine de courge a beaucoup de tryptophane.
Oui, mais c'est moins Armelle Rancillac à choisir. Je suis un peu comme Michel Lejoyeux et Adrien Chavoche entre la graine de courge et le carré de chocolat. Mais vous avez raison de le préciser.
C'est délicieux la graine de courge.
Vous avez raison, Michel Lejoyeux.
J'ai trouvé pour le livre une corrélation entre la quantité de chocolat mangé par habitant dans les pays et le nombre de prix Nobel. Donc à chaque chocolat, chaque carré de chocolat, peut-être que vous allez un petit peu vers le prix Nobel. Donc n'hésitez pas quand même.
Merci beaucoup docteur Adrien Chaboch. On peut retrouver votre chronique au 9 Docteur sur l'appli Radio France.
Ali Rebéi, grand bien vous fasse.
Comment retrouver la bonne humeur en cette période anxiogène alors que l'hiver s'éternise et que la situation sociopolitique, géopolitique plombe notre morale? C'est notre thème ce matin. Professeur Michel Lejoyeux, je rappelle que vous publiez L'aventure de la bonne humeur. Et pour retrouver le chemin de la bonne humeur, j'aimerais qu'on évoque un grand psychiatre et neurologue autrichien, Viktor Frankl, né à Vienne en 1905 et mort en 1997 dans la même ville. Il a écrit un grand livre, Découvrir un sens à sa vie. Écoutons-le d'abord en 1985.
Le facteur décisif, c'est la décision, la liberté de choix en dépit des conditions. Je veux agir librement comme un être responsable, c'est-à-dire comme un être humain, malgré les pires conditions. Le désespoir, c'est la souffrance dépourvue de sens. Tant qu'un individu ne peut trouver aucun sens à son désespoir, il sera certainement plongé dans la souffrance, voire poussé au suicide. Mais à l'instant où il voit un sens à son désespoir, il peut le transformer en accomplissement. Il peut transformer sa tragédie en triomphe personnel.
Le grand psychiatre et neurologue autrichien Viktor Frankl, pourquoi ce choix, Michel Lejoyeux? Vous le mettez en lumière, c'est un psychiatre relativement méconnu dans notre pays.
Oui, Alors
que son influence a été assez immense.
Son influence a été majeure. Il a inventé une thérapie qui s'appelle la logothérapie. Quand on parle d'actualité, lui était professeur de psychiatrie à Vienne. Parce que juif, s'est retrouvé du jour au lendemain dans un camp de concentration. Donc, actualité pas très simple non plus. Vous voyez, quand on compare les stress de l'actualité. Et au fond, ce que nous apprend Viktor Frankl, c'est l'importance qu'il y a à trouver du sens à sa vie. Et de manière très concrète. Moi, j'ai mis dans mon livre les exercices de Viktor Frankl adaptés. Il a proposé un exercice qui est l'exercice du blason. C'est-à-dire, au fond, qui avons-nous envie d'honorer? Imaginez que vous deviez faire un blason. Quelle personne vous mettriez? Vraiment, certainement pas les aléas de l'actualité qui passeront. Qui compte vraiment pour vous? Et il proposait une autre chose, Viktor Frankl. Il disait, avec qui avons-nous communiqué aujourd'hui? Est-ce que nous avons communiqué avec des fans en ligne ou des gens qu'on connaît à peine, ou avec celles et ceux qui véritablement donnent du sens à notre vie et nourrissent notre bonne humeur? Adrien, vous le disiez très bien, peut-être qu'à un moment, il faut être capable de se reconnecter sur celles et ceux qui sont nos vrais moteurs de bonne humeur. On les connaît, mais on pourrait les oublier, peut-être justement à peut-être trop s'intéresser à l'actualité, ou trop vouloir faire d'exercices de bonne humeur.
Trois idées fondamentales dans le livre de Viktor Frankl, Découvrir un sens à sa vie, la reconnaissance des valeurs fondamentales de son existence, ce qui nous motive, ce qui compte vraiment à nos yeux, la clarification des buts que l'on poursuit au travail ou dans sa sphère privée, et puis la capacité à ressentir, à exprimer de la gratitude, vous l'avez dit tout à l'heure, envers les personnes qui nous aident à tenir debout.
Et puis, Frankl disait, tout ça nous donne ce qui est très protecteur, un sentiment de cohérence. Vous voyez, il ne faut pas appliquer des exercices si vous ne les sentez pas cohérents par rapport à vous, vos valeurs, ce que vous êtes, votre physiologie.
Et vous conseillez également dans votre ouvrage la lecture du traité de l'amendement de l'intellect de Spinoza, philosophe hollandais du XVIIe siècle. Spinoza qui nous invite à fuir, comme la peste, trois passions tristes qui entravent notre bonne humeur. La recherche de la gloire, des honneurs, la quête de richesse et la lubricité. Pour Spinoza, trois désirs vains.
Oui, Spinoza dit vraiment qu'on a des manières de se rendre malheureux et on a des manières de se rendre heureux en les mettant à distance. Ce qu'il appelle la lubricité, c'est, si on le disait avec des mots d'aujourd'hui, le besoin d'avoir des relations sexuelles avec le maximum de personnes, pas uniquement des gens qui comptent pour nous, et le besoin de séduire tout le monde. Vous voyez, on ne plaît pas à tout le monde. On parle, on en agace certains, on en plaît à d'autres. Le deuxième, c'est effectivement la quête de l'argent. Qui est riche, celui qui va se contenter à peu près de ce qu'il a. Donc la quête permanente de l'argent crée un sentiment de déprime. Et le troisième dont Spinoza dit, c'est le pire, parce qu'il est honorable, on le ramène à la maison, on le respecte, c'est la recherche du pouvoir et de l'honneur. Et voyez, au fond, Spinoza anticipe un peu les thérapies comportementales en se disant, quand on met à distance certains comportements déprimants, certaines habitudes de vie et habitudes de pensée déprimantes, on nourrit sa bonne humeur.
Professeur Pierre-Philippe, je rappelle que vous publiez Antidéprime, on est en période de vacances. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, là, pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, ou bien ceux qui sont à la retraite, qui ont peut-être un peu de temps? Que faire de façon, immédiate pour commencer à retrouver une forme de bonne humeur? Qu'est-ce que vous conseillez? C'est quoi votre kit de survie?
Alors le premier kit de survie que je recommanderais, c'est la régularité du sommeil. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent du jet lag social, c'est-à-dire de varier les horaires de semaine et les horaires de week-end. Donc déjà, essayez si vous pouvez, pendant une semaine, 10 jours, de vous lever tous les jours à la même heure, une heure compatible avec vos activités sociales. On peut varier d'une heure, on sait que si on varie de 2 heures entre la semaine et le week-end, c'est très dangereux.
Ça, donc
c'est
pas le premier point. De grasse matinée.
Alors, ce que vous pouvez faire, c'est dormir plus. Non, vous pouvez dormir plus, mais en vous couchant plus tôt.
Ah,
l'erreur que font les gens, c'est qu'ils restent sur Netflix très tard et ils décalent leur horaire de lever, ce qui détruit l'horloge biologique qui est si importante, comme l'a rappelé Armel. Donc, premier point, fixez l'horaire de lever. Le deuxième point, c'est quand vous levez, exposez-vous rapidement à la lumière. Maintenant, le jour se lève plus tôt. Et donc, prenez au minimum 30 minutes de lumière. Idéalement avec 30 minutes d'activité physique, même très très modérée, une marche très calme suffit. Et puis après, je pense, c'est aussi mettre en place des stratégies autour de l'alimentation. On n'en a pas parlé, mais l'environnement, et en particulier les microparticules, sont un élément très très important sur l'inflammation du cerveau et contribuent maintenant à ces facteurs-là. Donc peut-être essayer de limiter l'exposition au milieu urbain ou aux particules.
Quand on a cette chance-là.
Quand on peut, oui. Ou même viser à quel moment. Il y a des études qui montrent que faire son footing au milieu d'un embouteillage de voiture, c'est efficace quand même pour la dépression. Donc c'est intéressant, quoi. Donc essayer de mettre toutes les chances biologiques de son côté pour récupérer la communion avec la psyché pour justement voir le futur sur un mode plus positif.
Armelle Rancillac, chercheuse en neurosciences à l'INSERM.
Oui, tout à fait d'accord. Et aussi essayer de réduire son stress en essayant, effectivement, comme on l'a mentionné il n'y a pas très longtemps, en relativisant et en essayant de prendre du recul et de se laisser le temps aussi de faire les choses qu'on a à faire.
Et une bonne manière de tourner le dos à ces passions tristes, spinoziennes, à ce stress chronique qui nous accable, à cette anxiété liée souvent à l'information, c'est de s'investir dans une activité qui nous plaît, une activité qui nous met dans un état de flow, cet état psychologique optimal que l'on peut atteindre en pratiquant certaines activités comme le bricolage, le dessin, le jardinage, la cuisine, le tricot ou toute autre activité qui nous plaît, professeur Lejoyeux.
Oui, absolument. L'héroïne de l'aventure de la bonne humeur, elle découvre une cuisinière qui lui apprend quelque chose d'assez magique. C'est que quand on se fait des repas tous les jours, on va mieux que quand on mange des restes. Ce sont des données qui viennent de
quand on commande...
Voilà, les plats préparés, les restes, cette capacité, vous voyez, il y a évidemment ce qu'on mange, les nutriments, mais cette capacité, une fois encore, à se fixer sur l'instant présent, se constituer un petit moment où on cuisine, et évidemment on va partager ce qu'on a cuisiné, va être un générateur d'émotions positives.
Et c'est vrai que vous laissez de la place à la gourmandise dans votre livre, Michel Lejoyeux. Est-ce que vous, en ce moment, pour terminé, ça sera le mot de conclusion. Vous êtes anxieux, comment vous surmontez cette actualité géopolitique, internationale, déprimante, Michel Lejoyeux ?
Déjà en regardant l'histoire, en regardant que tout ça est un peu anecdotique par rapport à certaines tragédies qui ont pu se passer
il y a une cinquantaine d'années.
Aujourd'hui en tout cas, aujourd'hui, je veux dire, n'entretenons pas. Vous savez, vraiment cette idée, le pessimisme est de combat et de nature, l'optimisme est de combat. Et pour faire le lien avec Montaigne, Montaigne disait... On a le droit d'être triste, mais il faut faire attention à ne pas aimer sa tristesse. Ne faisons pas un musée de la tristesse.
Professeur Philippe ?
Moi, je crois qu'il faut quand même être vigilant, hein, parce que les informations qui nous arrivent sont un peu préoccupantes. Mais bon, la vigilance, c'est comme quand vous retrouvez un lion dans votre chambre à coucher. Effectivement, vous allez en sortir rapidement. Donc, il faut trouver une voie positive en gardant un bon moral, mais en étant attentif.
Je sais que je fais vraiment des efforts pour essayer de sortir et m'exposer le plus possible et aussi de renforcer mes interactions sociales. Voir mes amis, ça pour moi c'est très important.
Merci beaucoup professeur Pierre-Philippe. Antidéprime est publié chez Flammarion. Merci Michel Lejoyeux. Chez Albin Michel, évidemment. Albin Michel. Merci Michel Lejoyeux. La grande aventure de la bonne humeur, c'est publié chez Robert Laffont. Vos deux livres sont complémentaires. Merci beaucoup. Armelle Rancillac, vous pouvez réécouter cette émission sur l'appli Radio France, mais également l'émission consacrée au bonheur selon André Comte-Sponville.
Grand bien vous fasse. Un podcast France Inter.